et bienvenue sur le podcast Texas Mama Blog Expat. Dans 3, 2, 1, on y va! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, un enregistrement spécial que je fais avec Geneviève Rabouin, qui est une expatriée qui habite en Italie, plus précisément dans le coin de Vérone. Alors, Geneviève, je la reçois aujourd'hui sur le podcast pour nous parler de ce qu'elle vit, parce qu'on le sait là, qu'en lien avec ce qui se passe dans le monde, le coronavirus, etc., il y a beaucoup d'actions qui se passent autour de l'Italie. Et donc, ben, je vais commencer par établir avec elle pour vous qu'est-ce qui a amené Geneviève en Italie, le fait qu'elle est expat là-bas, qu'elle nous parle un peu de sa situation comme expat. Puis ensuite, on va aborder le sujet du jour là, qui est la situation actuelle en Italie et comment aussi Geneviève peut nous vous aider à travers ce qu'on vit mondialement. Donc, bonjour Geneviève!
Bonjour!
Bienvenue sur le podcast!
Merci, ça fait plaisir d'être ici, merci!
Ah, merci! Écoute, ça fait plusieurs fois qu'on se parle, toi et moi, dans différents contextes, là, sur les groupes, etc. C'est la première fois sur le podcast en tant que tel. En fait, j'aimerais ça que tu commences par nous parler là, de ton expatriation. Qu'est-ce qui t'a amené à t'expatrier donc en Italie? Ça fait combien de temps que tu es là, etc.?
Bien, moi, je suis déjà en Italie depuis mars 2001. J'ai toujours voulu faire une expérience et de voyage, mais une expérience professionnelle, personnelle à l'étranger, même si je recule en arrière à l'adolescence et tout ça. Je voulais faire de la coopération internationale, puis j'ai visité quand même plusieurs pays avant de partir. J'ai eu la chance de venir en Italie parce qu'une amie à moi habitait dans le nord de l'Italie, puis j'avais d'autres amis. Donc, je suis arrivée à Bolzano, qui est une petite ville dans les Dolomites, dans les Alpes italiennes, à 1h30 de l'Autriche. Et puis, je suis restée là 12 ans. Je suis aussi revenue en 2012 pour 3 ans au Québec pour des raisons familiales, personnelles. Et je suis retournée en Italie après, en 2015. Et là, j'habite à Vérone maintenant depuis août 2015. Les raisons pour moi, c'était vraiment raison d'expérience personnelle, puis j'ai eu la piqûre finalement et je suis restée. Au début, je devais rester un an, mais finalement, ça fait presque 20 ans que je suis ici. Donc, j'adore l'Italie, j'adore aussi voyager, puis mon expérience, même si c'est, comme vous le savez, pas toujours évident, mais ouais, c'est ça.
Donc là, en ce moment, en Italie, tu travailles là-bas?
En ce moment, oui. Moi, j'ai fait mes
moment,
études.
Ouais.
Oui, ben en ce moment, oui, parce que
avant le coronavirus, mettons.
Avant le coronavirus, en effet. Moi, j'ai fait mes études en service social, en travail social à l'UQAM à Montréal. J'ai fini en 97. Puis, j'ai travaillé déjà à Montréal pendant quelques années. Ensuite, je suis arrivée ici. J'ai fait reconnaître mon diplôme comme travailleuse sociale. Donc, je suis reconnue ici pour mon travail. Et j'ai fait une formation après ça, une spécialisation comme counselor pendant 3 ans. Et en ce moment, j'offre des services en ligne depuis l'automne dernier. Donc, ça n'a rien à voir avec le coronavirus, mais ça m'aide là, en ce moment à travailler un peu parce que j'enseigne aussi les langues au secondaire. Donc, mais là, l'école est fermée. Alors, voilà.
Avec tout ce qui se passe, c'est ça. Donc là, justement, ça nous amène à ça. Quand est-ce qu'il a commencé à y avoir des indices que les choses bougeaient ou qu'il y avait une situation qui se dessinait autour du coronavirus en Italie?
Ici, ça a commencé, derrière scène, là, comme on peut dire, ou en arrière de la scène, parce que le premier cas du virus est apparu, semble-t-il, fin janvier. Et donc, le 21 février, on a eu la nouvelle que le virus était arrivé. Ils ont déjà instauré les premières mesures le 21 février. Et là, ça a déboulé là, depuis ce temps-là. Donc, ça fait un mois. Et le premier patient, ça est arrivé quasiment en fin de vie. Il va très mieux, heureusement. Et après, les cas ont commencé dans la région d'où lui venait. Ça a été exponentiel comme contagion. Et toute la Lombardie a été affectée, la Vénétie où je suis en ce moment. Et alors, dès les premières mesures, premièrement, les villages alentours ont été isolés, puis ensuite les deux régions, nos régions avec une autre région. Et ensuite de ça, ça a déboulé, là, ça a été toute l'Italie protégée, fermée, quarantaine. Et là, ils ont instauré des nouvelles mesures, il y a déjà aussi 10 jours, 2 semaines, là, sur le fait de tout arrêter comme activité, restaurant, bar et tout. Et cette semaine, ils ont annoncé là, les dernières mesures qui étaient d'arrêter toute activité productive. Donc, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a personne qui travaille, aucune production dans toute l'Italie, à part tout ce qui concerne la chaîne alimentaire. Donc, les pharmacies, épiceries sont ouvertes et tout ce qui sert à approvisionner, là, ces deux commerces-là, disons. Là, ça. Et maintenant, ce que on a su... Oui, on doit se promener avec une feuille, une déclaration pour dire où on va. On peut être aussi accusé au criminel si on ne respecte pas les règles. Et puis, depuis hier, aujourd'hui, ils peuvent nous prendre la voiture. Maintenant, c'est nouveau, ça. Si wow. Ils nous prennent on respecte pas les règles, puis on va faire l'épicerie à 15 km de chez nous, là.
Ouais, c'est ça, finalement. C'est ça, c'est d'ambitionner puis d'inventer une fausse excuse pour se déplacer à des endroits où on ne devrait pas aller, là.
Ouais. Ça a été étape par étape. Ensuite de ça, ils ont arrêté les gens depuis une semaine. Les gens ne peuvent plus courir à l'extérieur, plus de sport. Tu dois rester à 200 mètres de chez toi avec les chiens et tout. Et là, maintenant, semble-t-il que ils peuvent nous prendre la voiture. Alors, ça devient... c'est sérieux. C'était déjà sérieux, là. Mais les gens, c'est difficile pour les gens d'abandonner leur liberté de mouvement, puis surtout l'isolement. Fait que ça fait partie des difficultés que les gens vivent.
Mais tu sais, est-ce que... Puis c'est parce que moi, je suis aux États-Unis, je suis en contact avec beaucoup aussi de gens, évidemment, au Québec. Puis, tu sais, il y a des images qui nous arrivent de l'Italie, évidemment, véhiculées par les médias, là. Donc, tu sais, on voit, que c'est vraiment grave, mais on voit aussi une belle solidarité entre les gens, ou tu sais, comme les chants sur les balcons, la musique, etc. Ma question, c'est, est-ce qu'on vous annonce, est-ce que vous voyez le bout? Est-ce qu'on annonce, est-ce qu'on voit des améliorations? Est-ce que, tu sais, parce que moi, ce que j'entends souvent autour de moi, là, dans ma vie personnelle, professionnelle, c'est, tu sais, ce qui est stressant, c'est qu'on ne sait pas quand ça va finir. Nous, ici en Amérique, on a l'impression que ça va de pire en pire. Là. Vous aussi, de votre côté, mais vous êtes une longueur d'avance plus loin.
Ouais.
Est-ce que vous voyez le bout? Est-ce qu'on vous annonce aussi des bonnes nouvelles ou c'est comme de plus en plus restrictif, de plus en plus inquiétant?
Ben, c'est de plus en plus restrictif. Des bonnes nouvelles... plus ou moins, dans le sens qu'il y a toujours les conférences de presse à 18h où ils annoncent aussi les gens qui sont guéris, hein, qui sont sortis ou de l'hôpital ou qui ont surmonté le virus.
Ouais.
Mais les, disons, minimes bonnes nouvelles dans les deux derniers jours, c'est que on a eu un gros pic il y a 3 jours où il y a eu plus de 5 000 contagion en 24 heures. Avant-hier, semble-t-il qu'il y en avait 1000 de moins et hier, 500 de moins, mais on demeure quand même à 4000 contagions par jour et des décès aussi là, plus de 500. Donc, ils nous disent que, bon, ça peut être une petite fenêtre, là, de la lumière est en train d'entrer, mais pas encore on peut pas baisser la garde. Donc, toutes les mesures vont continuer à être imposées parce que ça veut pas dire que la tendance va continuer avec la diminution des contagions. Et on s'entend que 3-4 000 ou 4 000 par jour, c'est ça, c'est pas le moment là, de
baisser la garde. Ouais, c'est ça.
Non. C'est
non,
ça.
Mais en même temps, tu sais, nous, ce qu'on nous a dit aussi ici, puis là, je comprends qu'il peut y avoir une différence, c'est que parce que nous aussi, il y a eu des pics, dernièrement, hier, avant-hier, puis ce qu'on nous disait, c'est aussi, c'est parce que les gens se font tester de plus en plus, tu sais, donc il y a ça aussi, les symptômes sortent, les gens se font tester, tu sais, on a accès plus rapidement à la réponse, là. Donc, est-ce que c'est ce qu'on vous dit aussi en Italie, que ça peut être lié à ça, le pic que vous avez eu, là, il y a 2-3 jours?
Ben non, réellement non. Je pense que ils attendent la vague, là. Ils attendaient la vague.
Okay.
On l'attendait aux alentours du 25, je pense qu'ils nous disaient. Donc semble-t-il qu'on serait là dans le haut de la vague, mais pas vraiment à cause du nombre de tests, non.
OK. Puis là, toi, tu suis les nouvelles au Québec aussi, j'imagine, en parallèle.
Ouais.
Qui se passe à la maison. Donc, tu vois le décalage, j'imagine, entre les mesures qui sont prises en Amérique puis les mesures qui sont prises, là, je généralise en Amérique, là, parce que ça va jusque dans presque chaque ville, c'est différent.
Ouais.
Et, tu vois un décalage, là, tu te situes où, tu penses, en Italie à peu près par rapport à ce qui se passe de l'autre côté de l'océan? T'sais, en fait, de temps, est-ce que tu as l'impression que ce qu'on vit, c'est ce qui se passait chez vous il y a une semaine, il y a 2 semaines?
Ben c'est ça. Je sais pas si si je parle pour le Québec, disons c'est ce que je suis le plus là, en ce moment. Je pense qu'ils ont adopté des mesures importantes très très tôt en voyant les premiers cas. Je pense qu'ils disaient aussi beaucoup aux nouvelles là, qu'ils regardaient comment ça se passait en Italie et qu'est-ce que l'Italie a fait, non? Pendant beaucoup critiquent aussi l'Italie de ne pas avoir imposé des mesures drastiques dès le début. Mais je pense que le Québec est en train de faire ça. Imposer les mesures drastiques déjà maintenant avec comment je pourrais dire.
Peu de cas
et pas arrivé à... Et donc, ça va être dur, je pense, de dire ben combien de temps encore ou la différence de temps, tu sais, des semaines entre l'Italie puis le Québec, par exemple, ou les États-Unis, parce que si les États des États-Unis ou les villes ou le Québec, entre autres, a adopté déjà des mesures très, très drastiques, ben ça se peut qu'il y ait... qui est pas de ou qui est moins la courbe
c'est ça, qui assouplisse la courbe. Oui, c'est ça. Ouais, je comprends. Donc, c'est vrai que ça peut changer beaucoup la donne.
Mais ça peut beaucoup aider, puis tant mieux. Moi, je suis d'accord, je suis bien contente. Là, si le Québec en partie a adopté déjà ces mesures-là, parce que je pense que là, la production est aussi arrêtée. En tout cas, ça ressemble pas mal à qu'est-ce qu'on vit ici.
Oui, de plus en plus. Puis je te dirais qu'aux États-Unis, c'est pas encore le cas partout. Mais bon, on va espérer que les gens se mettent en action un petit peu plus. Maintenant, bon, tu sais, on le sait là, qu'il y a toutes sortes de situations qui sont vécues chez chacune des personnes. On a eu cette discussion-là ensemble quelques reprises dans les dernières semaines. Puis toi, j'imagine que tu es aussi sollicité à ce niveau-là, là, dans l'aide par rapport à faire face à cette crise-là, puis tu sais, bon, chacun fait face à ça de façon différente. Mm-hmm. Est-ce que, bon, je comprends que tu peux peut-être offrir des mesures de solution, certaines plus générales, puis d'autres plus personnelles ou individuelles. Mm-hmm. Vers quoi tu nous guiderais, disons, là, en tant que groupe, là, pour aider à travers tout ça?
Je pense que le moment actuel ou qu'est-ce qu'on est en train de vivre, je pense que c'est vraiment un appel à faire une pause. Une pause un peu de tout, hein, une pause de nos vies quotidiennes, t'sais, qui vont toujours très vite. Une pause au niveau de tout ce qui est, comment je pourrais dire, relations, projets, tout ça, c'est un peu, tu sais, les gens vont considérer ça un peu peut-être triste, mais je pense que c'est nécessaire de s'arrêter puis de regarder un petit peu où on en est en ce moment. Donc, ça veut dire quoi dans le concret? Quelle est votre situation actuelle? Comment ça se passe chez vous? Vos enfants? Tu sais, faire le point, faire un bilan, là, disons. Puis, et donc d'essayer de voir, de tirer de ça des conclusions plus positive possible. Donc, d'être, de se compter chanceux, d'être arrivé comme où on en est et de voir que cette pause-là, elle peut être aussi très créative et avec les enfants et avec nous-mêmes, avec notre conjoint et tout ça. Moi, je considère que les moments de crise, c'est les moments les plus riches en changements. Donc, il y a beaucoup de changements qui vont peut-être s'aborder, commencer pour dans les prochaines semaines, les prochains mois. Changements positifs, on espère, dans le sens que on veut toujours essayer d'aller vers le mieux, puis d'aller vers un meilleur bien-être. Et ça, je dis ça pas nécessairement, et peut-être même pas matériel. Je parle plus au niveau spirituel, au niveau intellectuel, relationnel, etc. Donc, fait que ça, la première chose, c'est de faire une pause, puis d'essayer de rentrer dans ce nouveau rythme-là qu'on n'est pas habitué. On n'est pas habitué de rester à la maison. On n'est pas habitué de s'arrêter. Donc, regardez un petit peu comment ça peut être riche, puis dire, ben de tout ça, en effet, il y a une partie qui est très dramatique et très triste. Pour les gens qui réussissent pas à surmonter la maladie. Et d'un autre côté, bien, je pense que c'est nécessaire là, de s'arrêter puis de voir qu'est-ce qu'on a de positif. Je dirais aussi d'essayer toujours de continuer d'avoir une routine, que vous ayez des enfants ou non. Donc, la routine est très importante dans le sens que on continue de se lever le matin, on se donne un horaire, on se fait une liste de trucs qu'on voudrait faire pendant la journée, si on ne doit pas travailler à la maison ou pendant le travail ou après, on planifie des activités avec les enfants, peut-être à la maison on n'a jamais pu faire. T'sais, passer du temps de qualité aussi, là, même si si vous avez des enfants, ça devient un peu plus chaotique là, de les avoir à la maison. Mais si vous avez un peu de terrain à l'extérieur, ben c'est important qu'eux aussi gardent une routine. Donc, on se lève pas à l'heure, à 11 heures le matin. Je pense que les enfants, on les colle à la maison. Donc, on garde l'heure des repas aussi fixe, etc. Et on essaie évidemment de garder un certain calme, t'sais, pour pouvoir profiter au maximum de ce moment-là. S'il y a des gens qui sont anxieux puis qui ne réussissent pas, ben, ils peuvent toujours aller ou se tourner vers un cher ou une personne qui compte pour eux pour parler de leur expérience ou consulter et je dirais aussi pas attendre de consulter. Si c'est ça le besoin de chez quelqu'un comme ça, ben parce que les situations de crise comme ça, ça fait que toutes nos références, hein, toutes nos points d'appui sont ébranlés et donc ça, c'est sûr que ça crée un grand mouvement à l'intérieur des gens, que ce soit au niveau de l'anxiété, mais ça peut aussi apporter des symptômes plus, je pourrais dire, dépressif ou de manque de motivation ou tout ça. Donc, c'est important de garder une routine puis garder des objectifs là, précis par rapport à ça. Donc, voilà. Est-ce que...
Oui, bien, en fait, écoute, Geneviève, moi, c'est ça que je trouve merveilleux de ce que tu fais dans la vie. la découverte que j'ai faite par rapport à toi, c'est que, tu sais, bon, là, tu viens de parler at large, si on veut, là, de façon générale.
Ouais, vraiment général.
Je sais aussi que tu peux aider les gens individuellement, puis dans ce temps de crise où les gens doivent rester chez eux, on est confinés pour la cause de la planète, là, pour la cause sociale au complet. En même temps, il y a des gens qui vivent des choses vraiment difficiles à travers ça. Puis c'est un concept sur lequel, tu sais, qui a comme été mis en lumière dans ma tête dans les dernières semaines, c'est que chaque réalité est vraie. Tu sais, il y a personne qui vit quelque chose qu'on peut minimiser ou dire que c'est dans sa tête d'une façon comme si ça n'existait pas. Ce que toi, tu peux faire, c'est d'accompagner ces personnes-là, même s'ils sont confinés chez eux, ils n'ont pas besoin de se rendre nulle part. Tu peux non seulement les écouter, mais aussi les accompagner dans cette démarche-là. Donc, peut-être que tu peux nous parler un peu plus de ce que tu peux faire pour aider les gens qui n'ont pas de ressources là, en ce moment, puis que, tu sais, que ça pourrait aider à travers ce qu'ils vivent.
Merci. Oui, C'est un projet, ce que je fais en ce moment, là, c'est un projet que j'avais en tête depuis plusieurs années. Donc, j'ai parti ça après avoir rencontré d'autres expatriés, puis à mon expérience aussi comme immigrante ou expatriée. Et j'ai pensé que, vu que les gens sont souvent éparpillés à travers le monde, à l'automne, j'ai dit, bon, ben pourquoi pas partir un service de soutien, d'accompagnement, moi je l'appelle counseling, donc ça serait des consultations psychosociales en français, en ligne, donc à travers Skype ou d'autres plateformes. C'était nouveau pour moi parce que je travaille comme travailleuse sociale, counselor depuis plus de 20 ans, mais je travaillais avec des gens en personne. C'est une façon vraiment, vraiment efficace là, de rencontrer des gens et d'apporter un soutien. Certaines personnes vont dire « Ah, ben, ouais, sur Internet », mais c'est vraiment pas vrai et moi, je me suis comme j'ai revu ma vision antérieure là, d'avoir toujours quelqu'un en face. C'est très puissant, c'est très si on arrive à des objectifs qui sont fixés par le client ou la personne qui me contacte. Donc, qu'est-ce que je peux offrir? Alors, si vous sentez que vous avez besoin de soutien, puis que vous voulez un soutien ou une opinion, une vision, être accompagné par quelqu'un qui est extérieur à votre famille ou les gens alentour, votre famille élargie, les amis, parce que des fois, on a juste besoin d'avoir un contact qui n'est pas la même, qui ne résonne pas comme dans notre famille ou nos proches. Vous pouvez me contacter par Messenger, donc sur Facebook, à Geneviève Rabouin. J'ai aussi ma page qui s'appelle Expat and You, qui est reliée au soutien aux expatriés, mais on ne fait pas juste parler de l'expatriation, évidemment, parce que ce soit l'expatriation, la crise en ce moment, quand les gens me consultent, les moments de crise, ce qui arrive, c'est que ça fait brasser beaucoup de trucs antérieurs, donc de difficultés, de problèmes, des choses qu'on enfouit, des choses qu'on n'a pas vraiment regardées ou qu'on a décidé de ne pas regarder pendant les dernières années. Et alors, ça remonte et les gens me consultent pour des choses aussi qui sont simples, dans le sens, je sais pas moi, ils ont difficulté à prendre une décision par rapport à un aspect professionnel, ils ont des difficultés avec leur conjoint au niveau de la communication, même avec les enfants, donc j'accompagne les familles parce que je travaille beaucoup, beaucoup avec les enfants aussi, les familles, les enfants, donc les enfants de zéro à l'adolescence, problème de communication aussi avec les enfants, problème personnel, empowerment, les femmes qui ont besoin là, d'être accompagnées pour changer des choses dans leur vie, des deuils, hein, souvent la vie fait partie de la vie d'avoir des pertes de gens chers, donc les deuils aussi, et bon, j'en passe là, etc., etc., des moments de crise, des gens qui se laissent, des divorces, des séparations, etc. Alors, ça fonctionne comme ça, c'est que j'offre des sessions d'une heure en ligne. On se contacte, on fait un premier contact là, de 10-15 minutes, c'est gratuit, là, juste pour se connaître. Et puis là, on voit si on matche bien ensemble, excusez l'anglicisme, là, s'il y a un fit, disons, par rapport à ça. Et si moi, je peux accompagner la personne ou je sens que professionnellement, je peux l'accompagner. Je dis ça parce que je ne m'occupe pas des pathologies psychologiques comme les dépressions profondes, les obsessions compulsions, tout ça. Ça, c'est vraiment un psychiatre et les psychothérapeutes qui accompagnent ces gens-là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les gens dans leur vécu, dans leur vécu normal, d'une vie normale qu'on a tous, et puis c'est des problèmes qui passent et qui viennent, qui arrivent, qui repartent et tout ça. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder ensemble si leur famille, ils veulent faire des rencontres avec leur conjoint ou conjointe. Parfois, je fais des rencontres aussi avec des adolescents. Donc, c'est vraiment varié. Moi, j'invite les gens qui sont intéressés à me contacter. Je vais les accueillir vraiment avec grande joie. Puis de là, on peut, tu sais, il n'y a pas d'obligation. Tu sais, vous pouvez me contacter, on parle, on regarde ce que vous avez besoin. Puis si ce n'est pas maintenant, bien, ça sera plus tard. Puis une autre chose que je dis, c'est que si vous appelez, puis on se rend compte, bien, vous n'avez pas besoin de penser que vous devez faire une thérapie d'un an pendant une fois par semaine. Des fois, ça prend juste quelques rencontres pour se connaître, quelques rencontres pour aborder là, le sujet, puis les gens repartent avec leurs petits bagages, tu sais, leurs nouveaux outils, et puis après ça, ils peuvent me recontacter s'ils ont besoin dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ou jamais, tu sais, tant mieux si ça va bien. Donc, j'offre aussi des soutiens de groupe. Alors, si vous êtes avec, vous connaissez d'autres personnes pour un thème particulier qui peut être comme, je sais pas moi, un groupe de femmes sur un sujet, je peux accompagner des groupes aussi. Donc, ma formation et mon expérience, là, j'ai accompagné beaucoup de groupes dans mon expérience professionnelle. Les expats aussi, ça c'est ça, plus... par rapport au vécu d'expatriation, des fois, les expats vivent des choses semblables. Donc, l'accompagnement de groupe est aussi possible. Alors, voilà, je pense que j'ai fait le tour.
C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, ce que je trouve bien, c'est que nous autres, les expats, on est un peu habitués de vivre, en isolement, mais pas nécessairement entre quatre murs de la maison, mais en isolement parce qu'on est... on arrive dans un nouveau pays, tu sais, puis à quelque part, on est un peu isolé. Donc, c'est peut-être facile pour nous d'imaginer le principe de consulter de cette façon-là. Tandis que, peut-être que, je sais pas, quelqu'un qui habite au Québec actuellement, qui vit au Québec, qui a toujours vécu là, peu importe, va entendre ce service-là pour la première fois en isolement, en a besoin, mais va... Elle a comme un travail, peut-être, là, d'imaginer comment ça peut fonctionner. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si c'est plus automatique pour l'expat parce qu'on est habitué de fonctionner à comment je me débrouille, moi, dans un environnement que je ne suis pas habituée. Tandis que c'est ça, ça fait la différence. Tu sais, je trouve ça intéressant, vraiment intéressant en ce moment parce que ça s'applique plus juste à quelqu'un qui est isolé en dehors de son pays, mais à n'importe qui, parce qu'on l'est tous un peu en ce moment, tu sais. Fait que je pense que c'est une super belle solution pour tout ce que tu as cité, là. Peu importe ce que c'est pas nécessairement lié à une fébrilité ou un stress ou des angoisses par rapport au coronavirus, tu sais, ça peut être en général. Je trouve que quand tu parlais de changement tantôt, bien, ça amène justement le monde à revoir leur façon de faire, tu sais, au fait qu'on dirait qu'on s'imagine peut-être à première vue que de consulter, c'est d'embarquer dans son auto, de se rendre chez un spécialiste duquel on a besoin et de, tu sais, que ça se passe là-bas. Déjà, en premier lieu, peut-être même que l'image, c'est, mettons, d'aller à l'hôpital ou d'aller... Bon, après ça, c'était « Ah, peut-être qu'on peut aller voir des spécialistes chez eux. » Puis là, maintenant, c'est « Ah, peut-être que je peux rencontrer quelqu'un qui peut m'aider en ligne. » Tu sais, on arrive à un monde nouveau par rapport à ces ressources-là, puis je trouve ça vraiment intéressant. C'est un monde de possibilités pour aider les gens. Fait que je trouve ça super beau, ce que tu fais. Puis j'espère que des gens qui seraient dans le besoin actuellement entendent ça, puis voient... c'est la possibilité pour eux, malgré le confinement, l'isolement, ou peu importe ce qui se passe dans le pays où ils se trouvent, là, au moment où on se parle ou qui écoutent ça, de trouver de l'aide.
C'est vraiment, c'est facile, c'est comme on disait souvent, c'est un clic, puis je suis une personne vraie, dans le sens que c'est pas... T'sais, on a souvent peur, on dit « Ah ouais, là, je sais pas trop, là, je vais aller voir, je vais cliquer, mais c'est qui cette personne-là? » Ou il y a peut-être une arnaque, ou je sais pas trop, là. Mais non, c'est pas du tout ça, là. Je suis une vraie personne, une vraie fille qui est québécoise, née à Montréal, puis j'ai vraiment fait mes études là-dedans, puis tout ça. Il faut, comme je pense, encore passer cette barrière-là, là, de non. Mais en tout cas, pour les gens que j'ai accompagnés, j'ai suivi, c'est merveilleux. Moi, j'adore ce que je fais, puis j'adore ça maintenant, faire ça en ligne. Même le faire en personne, je pense que ça va devenir un peu bizarre même pour moi.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Puis je pense que c'est bien, puis c'est vraiment une belle offre que tu fais. Tu étais la première personne que je rencontrais il y a je sais plus combien de temps maintenant là, qui fait ça en ligne. Puis je suis avec beaucoup d'admiration tout ça. Je trouve que c'est une belle option pour les gens qui sont à la recherche. Donc, je te remercie beaucoup, 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 Geneviève, d'avoir été là. Super instructif. Puis vraiment, j'invite les gens là, à ne pas hésiter à te contacter. Geneviève, c'est une personne de confiance.
Merci. Merci beaucoup à toi, Dominique. Merci.
Bonne chance pour la suite aussi.
Merci. Merci à vous.
Restez avec nous pour découvrir la vie d'expat du Québec sous tous les angles et obtenir des outils pour réussir la vôtre. Pour poursuivre l'écoute du podcast et ne pas manquer d'épisodes, je vous invite à vous abonner à celui-ci. Si vous avez aimé le contenu, ce serait vraiment apprécié afin de passer le mot, que vous laissiez une review en commentaire et que vous le partagiez sur vos réseaux sociaux en mentionnant ce qui vous a accroché le plus. N'oubliez pas de me taguer Texas Mama Blog ou Texas Mama Blog Expat. Merci!